France Musique.
Merci Dominique Boutel. À bientôt sur l'antenne de France Musique.
Je savais pas que l'amour c'était une maladie. En tout cas, vous vous risquez rien. Vous vous êtes fait vacciner.
You're not Rosebud, are you?
What?
Rosebud. And your name is Jennings, isn't it? Goodbye, everybody.
Is it just because her family changed their name from Albrecht? Or do you think it's because all you girls are bitches?
I guess so.
Yeah, I think Paige is the same.
Monsieur, pardon. Vous n'avez rien contre la jeunesse.
Si, moi j'aime bien les vieux.
It's Anna.
Did you find what you were looking for?
No, with two shots in his back and one in his stomach. Nobody important, really.
Cinéma Song par Thierry Jousse.
Aujourd'hui, Nagisa Oshima, l'éternel rebelle. Bonsoir. Ces dernières années, nombre de films importants du grand cinéaste japonais Nagisa Oshima étaient invisibles. Depuis le 4 mars dernier, cet état de fait n'a plus lieu d'être puisque les efforts conjugués de la Cinémathèque française et des éditions Carlotta nous permettent d'avoir accès à l'ensemble d'une œuvre cruciale pour le cinéma moderne et le cinéma japonais. Une rétrospective intégrale, la sortie d'un coffret DVD et la réédition en salle du Petit Garçon, de la Cérémonie, de la Pendaison et de Furio sont d'actualité. Occasion donc de redécouvrir Nagisa Oshima, un cinéaste iconoclaste, expérimentateur et profondément musical. C'est ainsi que nous évoquerons ses collaborations avec de grands compositeurs japonais comme Akaru Hayashi, Toru Takemitsu ou Ruichi Sakamoto, sans oublier notre Michel Portal national sur l'unique film français d'Oshima, Max Mon Amour. À la mi-temps de Cinéma Song, Charles-Pierre Vallière nous parlera des musiques de Jason Moran pour Selma et de la réédition de la bande originale de Duel, le premier film de Steven Spielberg, et c'est Benoît Basirico qui fermera le banc avec sa chronique au micro de Cinésique dans laquelle il présentera quelques musiques françaises entendues récemment dans les salles obscures. Mais en attendant, mon actualité c'est d'abord ceci.
Ricordati come eri vestita e come sei uscita e come mi sei corsa incontro quel giorno. Ricordati com'era la strada bagnata di pioggia e come mi hai preso per mano quel giorno. Ricorda come sei inciampata perché tu non sai camminare sui tacchi e come ti sei appoggiata più forte al mio braccio per non cadere. Ricordati il film che abbiamo veduto e poi tutto quello che abbiamo vissuto quel giorno. Quel giorno che era un giorno come tutti gli altri, ma tutto è cominciato quel giorno, quel giorno. Ricorda come sei inciampata perché tu non sai camminare sui tacchi e come ti sei appoggiata più forte al mio braccio per non cadere. Ricordati il film che abbiamo veduto e poi tutto quello che abbiamo vissuto quel giorno. Quel giorno che era un giorno come tutti gli altri, ma tutto è cominciato quel giorno, 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 quel giorno.
Ça fait du bien de commencer cette émission avec une chanson italienne. Enfin, j'espère que ça vous fait plaisir. En tout cas, moi, ça me fait plaisir. Une chanson italienne signée Gino Paoli dans un film de Bernardo Bertolucci qui s'appelle Prima della Rivoluzione, son deuxième long métrage, et son deuxième long métrage qui vient de ressortir en salle hier. C'est l'occasion de redécouvrir un film assez rare. On en avait parlé d'ailleurs il y a quelques temps, la saison dernière, avec Bernardo Bertolucci lui-même, qui était venu à Paris à l'occasion de la rétrospective que la Cinémathèque française lui avait consacrée. Et là, voilà, c'est l'occasion de redécouvrir ce film qui est une éducation sentimentale, politique, et en même temps en référence à la Chartreuse de Parme de Stendhal, puisque le film se passe à Parme, la ville natale de Bernardo Bertolucci, fils du poète Attilio Bertolucci. C'est un film qui a été crucial à l'époque, disons, dans l'invention d'une nouvelle vague italienne, un peu sur le modèle de la nouvelle vague française, puisque Bertolucci était totalement fasciné par le cinéma de Jean-Luc Godard. On peut y redécouvrir une actrice formidable, Adriana Asti, qui joue la tante du héros. Et c'est un film qui n'a pas pris une ride, en tout cas, et qui est vraiment formidable à redécouvrir. Et alors, musicalement parlant, donc, il y a des chansons italiennes, comme vous avez pu l'entendre, parce que Bertolucci est un vrai amateur de chansons, mais il y a également une musique originale signée Ennio Morricone. À ses débuts encore, il venait à peine de commencer à travailler avec Sergio Leone, et également quelques interventions du grand saxophoniste argentin qui était à l'époque en Italie, Gatto Barbieri. Donc c'est très riche, et ça vaut vraiment le coup d'aller voir ce film pour des raisons cinématographiques et musicales, comme toujours dans Cinéma Song. Alors, autre actualité musicale et cinématographique, celle-ci plus musicale d'ailleurs que cinématographique, la réédition, enfin plus exactement la sortie plutôt d'un album. Alors c'est un peu une séance de rattrapage parce que l'album est sorti à la fin de l'année 2014, mais c'était hier. La sortie d'un album d'un quartet de jazz contemporain français qui s'appelle Kino Sounds, emmené par Rémi Dumoulin, clarinettiste et clarinettiste basse et saxophoniste, pour un album qui s'appelle Virtual Crime et qui est sous-titré Musique pour un cinéma imaginaire, un album très très nourri de cinéma, très nourri de imaginaire du cinéma. Par exemple, il y a un morceau qui s'appelle John Bennett, en référence à la grande actrice hollywoodienne des années 40, l'égérie de Fritz Lang notamment. Et puis justement, il y a d'autres références à Fritz Lang. On va écouter justement un morceau qui s'appelle Mabuse Countdown. C'est vraiment une réussite, cet album, voilà, sans lien direct avec la musique de film, mais en lien vraiment avec le cinéma. Quatre musiciens français forment le quartet donc de Kino Sounds. Rémi Dumoulin, dont je le disais, au sax et au clarinette. Mathieu Metzger au saxophone baryton, alto et soprano. Johan Serra à la batterie, et Sylvain Bardiot à la trompette et au bugle. Et ces quatre musiciens étaient des membres de l'ONJ, enfin de l'Orchestre National de Jazz, période Daniel Ivinec. Donc voilà, on est en bonne compagnie. Puis puisqu'on parle de jazz et de cinéma, on va également écouter un extrait d'un album, alors lui qui était sorti encore il y a un petit peu plus longtemps encore, au mois d'octobre dernier. C'était la musique que le Caratini Jazz Ensemble, menée évidemment par Patrice Caratini, fameux contrebassiste, la musique que ce groupe avait composée pour un film à la fois crucial et méconnu. Premier film, on va dire, réalisé par un noir avec des noirs aux États-Unis. Il s'agissait de Body and Soul, avant même l'invention de ce standard par Coleman Hawkins. Et c'est vraiment une expérience remarquable, et enregistrée dans les conditions du direct, qui redonne voilà, cette sensation de la musique vivante à travers le cinéma également. Isabelle, une composition de Patrice Caratini interprétée par le Caratini Jazz Ensemble pour un album donc Body and Soul paru il y a quelques mois, un album donc de ciné-concert pour un film de Oscar Michaud, pionnier du cinéma black américain, un film très important mais pas très connu, voilà, une très très belle musique, une très belle réussite, édité sur le label de Patrice Caratini et auparavant Mabu's Countdown donc par le quartet de Rémi Dumoulin, Kino Sounds, extrait de l'album Virtual Crime, donc sous-titré Musique pour un cinéma imaginaire, donc des morceaux de jazz contemporain pour ce quartet donc issu de l'Orchestre National de Jazz de Daniel Ivinec, donc très en lien avec le cinéma. D'ailleurs, ce même quartet a également fait une sorte de recréation de la musique de Duke Ellington pour le film de Otto Preminger, Anatomy of a Murder, Autopsie d'un meurtre, et voilà, c'était également une réussite. Ils l'ont surtout joué en concert, ça n'a pas encore été édité pour le disque, mais ça ne saurait tarder, ou du moins on l'espère. Et bien voilà pour l'actualité maintenant, une autre actualité qui va nous occuper très largement, celle de Nagisa Oshima.
じゃあなんで今日来たんだよ。 好奇心、満足させてやるよ。
L'ambiance sonore et musicale du deuxième long métrage de Nagisa Oshima, réalisé en 1960, Conte cruel de la jeunesse, film fondamental dans l'histoire du cinéma japonais, dans l'histoire des nouvelles vagues mondiales qui faisaient commencer à fleurir à cette époque-là. C'est un peu le à bout de souffle japonais, donc on pourrait le dire. Nagisa Oshima, donc, qu'on connaissait surtout en France et depuis assez longtemps pour deux films, en réalité, L'Empire des Sens, bien sûr, grand scandale, et film que beaucoup de gens ont vu en 1976, et également Furio, dont on reparlera tout à l'heure, et qui ressort en salle la semaine prochaine dans une magnifique copie d'ailleurs. Mais évidemment aujourd'hui, et c'était déjà un peu vrai ces dernières années, puisque les éditions Carlotta avaient permis de revoir déjà, d'exhumer un certain nombre de films de Nagisa Oshima, là ces derniers temps vous avez accès à l'intégrale du cinéma d'Oshima, donc avec la rétrospective de la Cinémathèque française que j'évoquais en début de cette émission, qui a commencé le 4 mars et qui se poursuit jusqu'en avril. Également en salle, donc trois films de Oshima très importants qui étaient devenus invisibles, Le Petit Garçon, garçon, on y reviendra, la cérémonie également et la pendaison, et puis un coffret magnifique avec 9 films de Oshima, dont certains très peu connus des années 60, début 70, et également les 3 films que je viens de citer, donc aux éditions Carlotta. Donc c'est vrai que voilà, on veut dire que le mois de mars, en tout cas à Paris, mais même pas seulement à Paris puisqu'il y a des DVD, est très très marqué par la présence de Nagisa Oshima, qui a disparu il y a 2 ans et qui n'avait plus fait de film depuis l'an 2000, où il avait signé son dernier film Tabou, les années 90 et même un peu 80, en tout cas la fin des années 80 avait été très fantomatique pour lui puisqu'il était tombé malade. Voilà, on peut revenir donc sur l'itinéraire de ce grand cinéaste qui, je le disais, était vraiment le rebelle du cinéma japonais, l'inventeur un peu d'une nouvelle vague japonaise avec Yoshi Imamura bien sûr et Kiyo Yoshida, qui sont les 3 grands cinéastes japonais de cette génération-là. Voilà, en tout cas, le musicien avec lequel Oshima travaillait à ses débuts, il s'appelle Richiro Manabe. Alors évidemment, les musiciens japonais ne sont pas forcément très célèbres dans nos contrées. Richiro Manabe a travaillé sur plusieurs films d'Oshima à ses débuts, L'Enterrement du Soleil, Nuit et Brouillard au Japon, également sur des films comme les Godzilla, donc des films de genre, et sa musique, on va dire, tirée parfois un peu sur le jazz, avec des dissonances. Il y aura beaucoup de dissonances dans cette émission, parce que Oshima aimait les dissonances à la fois dans son cinéma transgressif, rebelle et radical, et puis également dans les musiques qu'il utilisait. On va retrouver tout de suite Oshima dans 2 autres films du milieu des années 60, 2 films très importants qui sont marqués justement par un goût de la transgression sexuelle et criminelle, Les plaisirs de la chair et L'obsédé en plein jour, avec 2 autres compositeurs dont je vous parlerai après.
ショウコさん。
行くの？行かないの？
行ってくれるのね。ああ、行くだけはな。
結局強いものが勝つだ、この世の中は。僕が死んだって英介は生き残るだ。生き残って夢中蹴って立身出世するだ。そうだ、俺が死んだって英介やしのちゃんはそのままちゃんと生きていくだ。
なしてあたいと英介を一緒のことに言うんだよ。
しのは男と一緒に死ぬのは嫌か。
J'espère que vous aimez les sonorités de la si belle langue japonaise et également, évidemment, les musiques que vous pouvez entendre donc, dans ces bandes-sons des films d'Oshima qui n'existent pas en disque, en tout cas pas en Occident, peut-être au Japon, que j'ai donc pioché dans les DVD que Carlotta avait édité il y a quelques années de ces deux films. L'Obsédé en plein jour à l'instant, donc avec une musique de Hikaru Hayashi, donc grand compositeur japonais à la fois pour la musique contemporaine. Il a composé plusieurs opéras, des œuvres pour orchestre, une œuvre assez importante de musique de chambre également, et puis pas mal de musique de film, notamment pour le cinéaste Kaneto Shindo, et notamment pour un film qui avait eu une grande célébrité en son temps, L'Innu, film sans parole avec beaucoup de musique, donc Kao Hayashi qui sera le compositeur fétiche de Oshima donc pour toute la fin des années 60. L'Obsédé en plein jour, l'exploration totalement folle de la psyché d'un criminel sexuel à travers également le point de vue de deux femmes, un film vraiment très fort et qu'il faut vraiment découvrir soit en DVD soit en salle si vous êtes parisien pour à la Cinémathèque française, et auparavant un autre des films majeurs de Oshima de l'époque, Les plaisirs de la chair, alors un film un peu plus pop avec une musique justement qui est moins disons, qui va moins dans le sens de la musique contemporaine, puisque c'est encore une fois beaucoup des musiques d'Oshima sont des musiques proches de la musique contemporaine, et là c'est un peu moins le cas. Musique de Kenji Yuasa sur lequel j'ai trouvé assez peu de choses d'ailleurs en documentation, je ne parle pas et ne lis pas le japonais malheureusement pour moi. Alors Les plaisirs de la chair, L'obsédé en plein jour, voilà, c'est un moment important dans l'œuvre d'Oshima. À partir de cette période-là, Oshima va devenir plus proche de l'agitation politique de qui règne au Japon à cette époque. On n'est pas loin de 68, donc il n'y a pas qu'en France que les étudiants se sont mobilisés, et Oshima s'en fera l'écho dans des films comme À propos des chansons paillardes du Japon ou le Retour des Trois Soulards, qui sont des films très en lien voilà, avec ces mouvements étudiants. Et puis en 1970, il produit un film absolument splendide et qu'il faut découvrir à tout prix, Le Petit Garçon, qui est un des plus grands films sur l'enfance à égalité, on va dire, avec Almania les Zéro de Roberto Rossellini, ou certains films de Rostami ou La Nuit du Chasseur, donc un film vraiment sublime, musique toujours de Hikaru Hayashi que Oshima retrouve donc pour la quatrième ou cinquième fois donc à cette période-là, et Le Petit Garçon est ressorti en salle tout seul la semaine dernière, il sort également en DVD tout seul également dans le coffret dont je parlais, donc vous n'avez aucune excuse pour le manquer et ça vaut vraiment le coup de le voir. Je vous propose d'écouter l'ouverture de ce film autour d'un fait divers donc où des parents utilisent leur garçon pour provoquer des accidents et extorquer de l'argent aux automobilistes. C'est un film très, très dur et en même temps magnifique. Donc, Le Petit Garçon, Nagisa Oshima.
なんじゃ、僕の何か。早う隠れよ。 土佐のこっちの針間や帽子で盆さんかんざし買うを見た。土佐のこっちの針間や帽子で盆さんかんざし買うを見た。
見つけたぜ。おい、泣け。お前泣け。鬼に捕まったら子供は泣くぜ。鬼ぜ？僕は鬼ぜ？みんなどこ行ったろ。学校へ感づく遊びるやつはみんな捕まえちゃうき。
L'extrait, enfin l'ouverture du film, du chef-d'œuvre de Nagisa Oshima, le Petit Garçon 1970, avec cette musique de Hikaru Hayashi qui ponctue de façon très précise voilà, le film de Oshima. La musique chez Oshima joue toujours un rôle très important, même s'il n'y en a pas forcément beaucoup quantitativement, mais elle a un rôle structurel fondamental dans ses films. Et puis elle donne une couleur très particulière, très abstraite, souvent à son propos. Et c'est vrai que le cinéma d'Oshima n'est pas un cinéma à proprement parler réaliste, il l'a été d'ailleurs de moins en moins au fur et à mesure de son évolution. Et voilà, on est dans une époque, donc 1970, où Oshima revient, disons, à des formes peut-être un peu plus classiques, en apparence en tout cas moins hirsutes que ses films précédents, je le disais, donc en plus en lien avec l'agitation politique. Et il signe après le Petit Garçon en 1971, un de ses chefs-d'œuvre également, La Cérémonie, qui fait partie des films qu'on peut revoir aussi en salle la semaine prochaine, mais à la Cinémathèque et en DVD. Et La Cérémonie, c'est une espèce d'autopsie de la famille japonaise et de l'État japonais, on pourrait dire, la famille et le pays étant identifiés l'un à l'autre. Et pour ce film, Oshima commence à collaborer avec le plus grand compositeur japonais de cette génération. Il s'agit de Toru Takemitsu, connu à la fois comme un grand compositeur de musique contemporaine, influencé par Messiaen ou John Cage ou l'école de Vienne, et même Varese, et puis qui est également un compositeur qui a produit une musique non sans lien avec une certaine tradition. Il utilise des instruments japonais parfois dans ses musiques, et puis il a beaucoup travaillé avec finalement nombre de cinéastes japonais, dont nombre de grands cinéastes japonais comme Imamura, comme Kurosawa, puisqu'il a signé par exemple les musiques de Ran ou de Kagemusha, et puis d'autres cinéastes un peu moins connus en France mais qui étaient très importants dans la période des nouvelles vagues japonaises comme Hiroshi Teshigahara ou Susumu Ohni. Donc un compositeur comme il y en a peu d'ailleurs, qui pratiquait à la fois la musique absolue, comme on dit, et la musique de film. On va précisément écouter deux de ses compositions pour Oshima, pour La Cérémonie, donc en 1971, et également pour L'Empire de la Passion, le film qui suit L'Empire des Sens en 1978.
Thank you.
De la musique de Toru Takemitsu pour les films non moins raffinés de Nagisa Oshima à l'instant. L'Empire de la Passion 1978, un extrait donc de la musique du film. Un film qui comporte des éléments à caractère fantastique. Un film qui se situe dans la tradition des films d'amants criminels qui assassinent donc le mari. Et ce mari revient en fantôme, bien évidemment, tout ça dans un village japonais, dans une atmosphère, je disais pas très réaliste, mais très très belle et très stylisée. Et auparavant, la musique d'un autre film magnifique de Oshima, La Cérémonie 1971, qui ressort donc la semaine prochaine en salle et qui est déjà disponible depuis très peu de temps en DVD, depuis aujourd'hui d'ailleurs ou hier, est visible également à la Cinémathèque française, je le rappelle, un des films fondamentaux de Oshima pour comprendre un peu voilà, ce travail qu'il a fait sur l'anatomie d'une certaine façon de son pays et sur les désirs secrets, on pourrait dire, qu'il le nourrisse. Alors Takemitsu a travaillé sur 4 films de Oshima à cette même époque-là, dans les années 70, et notamment sur 2 autres films moins connus qui ressortent dans le coffret de Carlotta. Il est mort après la guerre. Et puis, Une petite sœur pour l'été, qui est un film, on va dire, très nouvelle vague dans l'esprit, très léger, pas du tout dans la même logique de raffinement formel dont je parlais pour les films précédents. Là, au contraire, on est dans un univers presque un peu à la Romère, on pourrait dire, ou à la Jacques Rosier. Et ça se passe à Okinawa. C'est l'occasion voilà, d'une recherche personnelle sur familiale à travers ce film. Et la musique de Takemitsu est extrêmement différente de celle qu'on a pu entendre à l'instant. Une musique beaucoup plus légère, presque un peu pop, avec du piano électrique. Et d'ailleurs, celle de Il est mort après-guerre et flirte un tout petit peu avec le rock psychédélique également, comme quoi Takemitsu n'était pas simplement le compositeur contemporain sérieux qu'on a pu entendre ici et là. Il est mort d'ailleurs en 1996, je le rappelle. On va écouter voilà, c'est l'extrait de cette musique assez rare et assez légère par rapport à ce qu'on connaît de Takemitsu.
France Musique. Thank you.
musique presque pop, en tout cas très légère et presque easy, on pourrait dire, de Toru Takemitsu. C'est assez rare pour le noter, c'est même très rare. En tout cas, c'est pour le cinéma et c'est pour un film de Nagisa Oshima qui lui-même est un petit peu plus léger que la moyenne des films qu'il faisait à l'époque. 1972, Une petite sœur pour l'été, Dear Summer Sister en anglais, disponible donc en DVD dans un coffret chez Carlotta qui est sorti, je crois, hier. Vous avez 9 films de Oshima, parmi lesquels donc ces grands films comme Le Petit Garçon et ou La Cérémonie ou La Pendaison, mais également des films moins connus comme celui-ci où il est mort après la guerre. On retrouve la musique de Toru Takemitsu sur un mode là aussi un petit peu plus pop que ces grandes partitions pour Oshima ou Kurosawa par exemple, comme Ran. Là c'était un petit peu plus tard, dans les années 80. Et ben, ça n'est pas tout à fait fini pour Oshima, puisqu'on le retrouvera après bien sûr la chronique de Charles-Pierre Vallière dont c'est l'heure et il est ici. Bonsoir Charles-Pierre.
Bonsoir Thierry.
Dites, oh, tu aimes ça la musique?
La musique?
Ah oui, j'aime ça, surtout après un bon déjeuner.
Bonsoir à toutes et à tous. Alors ce soir, je vous propose de revenir sur la musique d'un film culte dont la bande originale n'est pas forcément la plus connue. C'est bien dommage. Il s'agit de la musique du film Duel de Steven Spielberg, qui est un des rares films de Steven Spielberg dont la musique n'est pas de John Williams, Thierry, mais de Billy Goldenberg. C'est effectivement à souligner. Donc la bande originale de Duel est éditée en CD pour la première fois par le label Intrada. Jusqu'à présent, en fait, on ne trouvait que des passages de Duel dans des compilations où on entendait justement les musiques de Steven Spielberg. Et donc Billy Goldenberg a fait beaucoup de musique pour des séries télé, notamment pour Kojak, vous vous souvenez, ou encore celle d'épisodes de Columbo. Mais à l'origine, en fait, Billy Goldenberg venait de l'univers du jazz. Et dans certaines de ses compositions pour le cinéma, cela s'entend. Alors comme dans La théorie des dominos, un film de Stanley Kramer avec Gene Hackman en 1977, où ils mêlent là justement leurs chansons avec des passages langoureux aux sonorités jazzy et aussi musique avant-gardiste. Et donc pour Duel, c'est surtout ce côté musique avant-gardiste que l'on entend dans la musique de Goldenberg. Alors c'est une bande originale vraiment superbe, très atonale, qui est bien dans l'esprit de celle qu'on a entendue dans votre émission Thierry jusqu'à présent, faite donc de dissonance, de tension, d'agressivité. Vraiment, Goldenberg crée des sensations remarquables de vertige justement grâce à la musique, traduction en fait tout simplement de ce que ressent le personnage principal dans ce film interprété par Dennis Weaver, qui est poursuivi par un énorme camion dans le désert américain. Alors c'est une très bonne chose donc cette édition intégrale de la bande originale de Duel, parce que d'une part donc on découvre un film de Spielberg avec une musique qui n'est pas si fréquente chez Spielberg, donc comme on entend un petit peu là. Et puis surtout, il faut dire que Spielberg avait très largement taillé dans les extraits de la musique de Billy Goldenberg, donc on entend très peu et puis c'est souvent couvert par les bruits de moteur. Voilà un extrait de la bande originale.
C'est encore plus radical que Takemitsu, finalement, pour Oshima, presque.
Presque, pas tout à fait, quand même. C'est, non, c'est vrai que Takemitsu est très, 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 très dur, hein, avec les oreilles parfois, mais c'est vraiment très. Enfin, en tout cas, la musique de Billy Goldenberg est vraiment très, très belle avec ce film de Steven Spielberg, donc, qui était d'abord sorti en 1971 dans une version télé, puis ensuite sorti au cinéma après le succès que l'on sait, donc, en 1973. Voilà, cette bande originale de Billy Goldenberg est disponible sur le site du label Intrada, donc, depuis le 3 mars. Et puis à noter la sortie sur les écrans du film Selma de la réalisatrice Ava DuVernay, donc, dont la musique a été composée par le pianiste de jazz Jason Moran. Alors on pourrait dire que Jason Moran est l'héritier de Billy Goldenberg justement et de Jerry Goldsmith, parce que parfois c'est vrai que la musique de Goldenberg, on en parlait Thierry, s'y apparente un petit peu. Alors c'est pas vraiment ça, hein, pour cette BO. Dans ce film qui raconte, hein, donc, l'histoire de la marche des Noirs en 1965, dont on fête l'anniversaire, hein, depuis le 7 mars, pour l'égalité des droits aux États-Unis. C'est une musique qui aurait pu être celle justement de Fats Waller ou Thelonious Monk, dont justement Jason Moran dit souvent être influencé. Pour Selma, en fait, il a composé une BO qui est plus proche d'une musique classique, mais malheureusement assez conventionnelle, avec des passages qui s'étirent comme ça, avec des cordes très, très langoureuses, des mélodies au piano un peu faibles, à mon sens. Mais ce qui est vraiment intéressant dans cette bande originale, c'est qu'il n'y a pas beaucoup, en fait, de morceaux de Moran, alors que sur le film, il y en a. Là, dans la BO, on retrouve énormément de musique préexistante, dans le genre soul ou R&B. Et là, eh bien, il y a des morceaux comme celui que je vous propose d'entendre et qui sont composés par Otis Redding. Trouble de Otis Redding que l'on entend sur cette bande originale du film Selma, donc chez Paramount Pictures, Pathé Productions, que vous pouvez bien évidemment télécharger sur les plateformes sur lesquelles on peut télécharger, Thierry, donc sans dire de nom.
Vous avez raison, je ne veux pas faire de publicité, en tout cas j'ai l'impression que vous avez raison, mais vous avez toujours raison d'ailleurs. La chanson d'Otis Redding m'a l'air quand même plus intéressante que la musique originale de Jason Moran, mais bon.
Il est mieux à l'extérieur, en fait, voilà. Jason Moran, c'est surtout ça. D'accord. En dehors de ses BO.
on va laisser ça à du utile, ou Yvan Amar sur cette chaîne. Ils seront les bons serviteurs de Jason Moran, entre autres. Merci en tout cas, Charles-Pierre, et puis on se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour une nouvelle chronique essentielle BO. Thank you. deuxième partie sur le cinéma de Nagisa Oshima et ses musiques. Et à l'instant, la musique de, un extrait de la musique de la magnifique musique de Ryuichi Sakamoto pour le dernier, l'ultime film de Nagisa Oshima en l'an 2000, Gohato Tabou, une histoire de samouraï qui dévoile l'homosexualité qui pouvait régner dans cet univers. Donc encore une forme de scandale chez Oshima qui en a été familier à plusieurs reprises, même si ces films ne sont pas forcément faits pour ça, mais ils ont souvent provoqué par les thèmes qu'il a abordés, par les formes qu'il a utilisées, ils ont souvent provoqué voilà, des réactions assez, on va dire, contrastées, voire hostiles, voire la censure, bien sûr, notamment, bien sûr, pour l'Empire des Sens, que je n'ai pas évoqué directement ce soir, parce que ce n'est pas le film le plus musical, on va dire, de Oshima, même si c'est aussi une sorte de chef-d'œuvre à sa façon, et un film qui reste très, très fort et très radical dans son propos. En tout cas, Tabou marquait la fin de la carrière d'Oshima en tant que cinéaste, ce qui est le cas d'ailleurs, qui avait beaucoup travaillé également pour la télévision à certaines périodes de disette cinématographique, et qui était également un personnage très célèbre au Japon, non pas tellement pour ses films, à part L'Empire des Sens peut-être, mais surtout parce qu'il apparaissait énormément dans les talk-shows télé des années 80, en particulier donnant son avis sur beaucoup de sujets. Donc c'était un peu comme Jean-Luc Godard finalement, un peu à l'époque en France. Et Oshima, voilà, donc finalement, avait tiré sa célébrité davantage de ses apparitions télé que de sa carrière de cinéaste. En tout cas, la musique que Sakamoto avait composée pour Tabou est sans doute la plus belle musique, à mon sens, que Sakamoto ait faite pour le cinéma. Et pourtant, il a travaillé avec Brian De Palma, Pedro Almodovar ou Bernardo Bertolucci, donc c'est quand même pas rien. Et une des plus belles musiques de ces 20 dernières années, je dirais, au cinéma, enfin pour aller à la louche, comme on dit. Et une musique qu'il faut redécouvrir, un film totalement fantomatique et très beau avec Takeshi Kitano dans un des rôles principaux de ce film. Takeshi Kitano qui figurait, enfin, qui apparaissait également pour la première fois à l'écran dans Furio 1983 avec David Bowie, dont on reparlera bientôt dans cette émission début avril, puisqu'il est à l'honneur en ce moment à Paris pour cette exposition qu'on peut voir à la Philharmonie. David Bowie et Ryuichi Sakamoto lui-même qui jouait l'autre rôle principal, et donc Takeshi Kitano, je le disais, apparaissant également dans ce film de prisonnier pendant la guerre, qui là aussi met en scène un attrait homosexuel inédit, on pourrait dire, dans ce genre de film. C'est un peu comme si le pont de la rivière Kwai avait été travaillé, je dirais, par une pulsion secrète et inavouée. Et c'est un film splendide qu'on pourrait revoir donc la semaine prochaine en salle dans une magnifique copie. On va écouter non pas le thème original, enfin en tout cas la version originale du thème extrêmement célèbre, parce que là on est vraiment dans une des musiques les plus, la ritournelle, on pourrait dire, que Sakamoto a composé, a fait le tour du monde et a été dans toutes les oreilles à cette époque-là. On va écouter la version, une autre version qu'on a donné Sakamoto dans les années 90 en compagnie de David Sylvian, l'ex leader du groupe Japan, justement, qui a mis des paroles donc sur cette musique qui s'intitule également Forbidden Colors.
Senseless years thunder by, millions are willing to give their lives here. to cope with feelings aroused in me. My hands in the soil, buried inside of myself. My love wears forbidden colors. My
haut de gamme pour cette version du thème de Furio, le film de Nagisa Oshima qui s'intitule le thème Forbidden Colors ici. Donc duo de haut de gamme, je disais, formé par le pianiste, instrumentiste, compositeur Ryuichi Sakamoto et le guitariste et chanteur David Sylvian, qui a fait une carrière solo assez comme ça étrange et très personnelle. David Sylvian, donc, qui avait mis des paroles et qui s'est placé sa voix donc sur ce thème ultra célèbre dont j'ai voulu peut-être vous épargner la version originale, encore qu'elle est quand même très belle également, mais c'est intéressant d'écouter d'autres versions. Ryuichi Sakamoto l'a réenregistré à plusieurs reprises. Il l'avait réenregistré à peu près à la même époque, donc au milieu des années 90, avec notamment le violoncelliste Jack Morellenbaum également. Ryuichi Sakamoto, j'ai omis de le dire, ancien leader du groupe Yellow Magic Orchestra, qui a fait une carrière solo tout à fait remarquable, grand admirateur d'Antonio Carlos Jobim également. Il a joué avec des musiciens brésiliens à plusieurs reprises, des disques d'hommage à Jobim, et on l'entend d'ailleurs parfois cette couleur également dans sa musique, et également donc un compositeur pour le cinéma tout à fait remarquable, Furio, donc qui, je le rappelle, sera visible dans les salles de cinéma la semaine prochaine, puisqu'il ressort flambant neuf, voilà, et vous pouvez le voir bien évidemment encore à la Cinémathèque française où se déroule toujours la rétrospective Nagisa Oshima, Nagisa Oshima avec qui on va terminer maintenant, et on va terminer avec son seul film français, et donc avec un compositeur français, Michel Portal. Et oui, Michel Portal a travaillé une fois avec Nagisa Oshima dans les années 80 pour Max Mon Amour, curieux film d'Oshima qui ne ressemble pas, en tout cas en apparence, à ses autres films, l'histoire d'amour entre une femme et un singe, notamment tout ça avec le ton de Jean-Claude Carrière qui en était le co-scénariste. Un film transgressif mais d'une manière très feutrée, un peu à la Buñuel, période française. C'est pas étonnant parce qu'il y avait Jean-Claude Carrière, et puis une musique de Michel Portal comme ça sous la forme d'une ritournelle extrêmement légère qui est très très réussie, qui est assez parcimonieuse dans le film, mais qui est vraiment réussie, et que Michel Portal a réenregistré d'ailleurs sur deux versions différentes dans un album qu'il a réalisé 10 ans plus tard, qui s'appelle Cinéma, musique recomposée précisément pour le disque. On va écouter sa version en solo de Max Mon Amour. Le thème de Michel Portal pour Max Mon Amour, donc l'unique film français de Nagisa Oshima en 1986, son avant-dernier film très exactement avec Charlotte Rampling. Notamment, on y entrevoit également Fabrice Lucchini, encore bien très jeune, Sabine Autepin et Bernard-Pierre Donadieu. Voilà, c'est un film tout à fait français et en même temps avec un côté british puisque ça se passe dans le milieu de la diplomatie anglaise à Paris. Et puis évidemment, le personnage de Max, le singe, très intrigant et troublant, on va dire, pour ce film. Et cette musique donc de Michel Portal, qui n'est pas sans faire penser, en tout cas dans cette version, à certains accents du Laurie Anderson de l'époque. Donc dans l'album Cinéma, où Michel Portal recomposait certaines de ses musiques de films pour le disque, un album paru à l'époque sur Label Bleu, et c'était il y a maintenant pas loin de 20 ans finalement. Le temps passe vite, n'est-ce pas, Benoît Basirico, qui est là ici et à qui je dis donc bonsoir, Benoît.
J'acquiesce tout ce que vous venez de dire. Bonsoir.
Merci.
Au micro de Cinésic, la chronique a sélectionné pour vous 4 BO françaises du mois de mars, 4 compositeurs à découvrir dans les salles de cinéma. Evgeny et Sacha Galperine, Olivier Bernet, Marie-Jeanne Serrero et Cyril Aufort. Commençons par un film sorti hier, 11 mars. Le dernier coup de marteau est un drame poignant avec le jeune Romain Paul, Clotilde Esme et Grégory Gadebois. Victor, 13 ans, pousse la porte de l'Opéra de Montpellier. Son père dirige la 6e symphonie de Mahler. La cinéaste, Alix Delaporte, signe son 2e film après Angèle et Tony, un film sensuel où les visages, les regards et la musique en disent plus que les mots. Hormis la musique de Gustave Mahler, qui tient une grande place à l'image jusqu'au générique final, les frères Evgeny et Sacha Galperine, tout juste auréolés du succès public de La Famille Bélier, ont choisi pour leur musique originale de ne pas rivaliser avec le compositeur autrichien du 19e. Ils n'ont ainsi pas composé pour orchestre, mais une guitare se fait entendre et une chanson, interprétée par Sacha Galperine, l'un des compositeurs, est entendue lors d'une scène où l'enfant se fait tondre le crâne en plein air par une jeune fille, face à un paysage marin au crépuscule, très romantique et magnifique scène de séduction retenue.
Come to the world, it's gone.
Magnifique chanson signée les frères Galperine pour le film d'Alix Delaporte, Le dernier coup de marteau. J'en profite pour signaler que les frères Galperine seront au festival d'Aubagne lors du festival entièrement dédié à la musique de film qui se tient toute la semaine prochaine. J'aurai d'ailleurs le plaisir d'animer avec eux la leçon de musique de film le samedi 21 mars au matin.
Et j'y serai aussi pour Cinéma Song d'ailleurs.
Tout à fait, on y sera, on va passer quelques jours là-bas en honneur à la musique de film et Cinésique. J'en profite aussi pour signaler que Cinésique fête ses 10 ans ce mois-ci, au mois de mars.
Vous aviez caché ça.
Voilà, en mars 2005, j'ai donné le coup d'envoi avec quelques amis à ce site internet qui aujourd'hui donc a 10 ans. Je continue avec un autre film à l'affiche cette semaine, The Voices, premier film américain de Marjan Satrapi, une délicieuse comédie horrifique avec un serial killer incarné par Ryan Reynolds et sa première victime campée par Gemma Arterton. Le film passe d'une vision angélique et fantasmée à une noirceur dévastatrice, telle la schizophrénie du personnage, un Dr. Jekyll et Mr. Hyde faisant osciller le film de l'horreur la plus noire à la comédie la plus délirante et burlesque. Le compositeur Olivier Bernet retrouve la réalisatrice après Persepolis et Poulet aux prunes et propose une partition orchestrale pour la partie thriller et des chansons très variées, du rockabilly, du blues, de la country, de la folk, il y a du karaoké et également une reprise des Oggies réarrangée et réinterprétée par le cast du film. Film très musical donc. Pour le compositeur, tous ces morceaux country, rockabilly, folk donnent une touche américaine reconstituée à l'image du film qui se déroule dans une ville américaine mais a été tourné dans les studios Babelsberg de Berlin. Écoutons Knock on Another Door que le personnage écoute dans sa voiture en pleurant, chanson mélancolique spécifiquement écrite pour le film.
I cried a thousand tears and spent a hundred lives before I found a place where I can rest. 'Twas close to Julia, in the middle of these hills. We stayed for the worst and for the best. But all this has changed with the wear of time. The light in her eyes has disappeared, and the ghost of our love doesn't haunt her no more. Julie said she wants to knock on another door. And I can't cease to love her, it would mean ceasing to live. The life I live in vain since she's gone. I tried to hold her back, Lord knows I really tried. But Julia says she'll knock on another door.
Jerry, Fiona, Fiona and Jerry, la 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 la.
Cette petite berceuse fait aussi partie de la BO de The Voices de Marjan Satrapi. C'est d'ailleurs Marjan qui a chanté la mélodie au compositeur. C'est en quelque sorte une co-composition pour cette berceuse, Jerry et Fiona. Et c'est l'acteur Ryan Reynolds qui chante ce que l'on vient d'entendre à l'instant. La semaine prochaine, 18 mars, sort Anton Tchekhov 1890, nouveau film de René Ferré, avec Nicolas Giraud dans le rôle-titre du dramaturge russe Tchekhov. Ce biopic est épuré et délicat dans le pur style du réalisateur de Nannerl, la sœur de Mozart. René Ferré ne voulait pas une musique russe, mais Marie-Jeanne Serrero, la compositrice, qui retrouve le cinéaste pour la troisième fois, lui a tout de même proposé d'y insuffler un parfum par la thématique et les harmonies. La partition prolonge la sobriété de la réalisation, René Ferré tenait à ce qu'il y ait une réserve dans le ton. Il n'y a ainsi pas de débordements sentimentaux. Une écriture tenue, c'est en ces termes que Marie-Jeanne Serrero qualifie sa musique. Une sobriété jusque dans l'instrumentation, avec quatre instruments uniquement. Un thème au piano-corde est entendu lorsque Tchekhov revient en carriole de l'île de Sakhaline. C'est le moment le plus lyrique du film, au romanesque sous-jacent.
Thank you.
Magnifique thème signé Marie-Jeanne Serrero pour Anton Tchekhov 1890 de René Ferré qui sort la semaine prochaine. Autre sortie de la semaine prochaine, Un homme idéal, premier thriller dans lequel joue Pierre Niney, auréolé de son César pour Yves Saint Laurent. Il incarne un écrivain en panne d'inspiration qui va publier sous son propre nom les écrits d'un autre. C'est le début du cercle infernal d'un mensonge qui mène au drame. Il est amoureux de l'excellente Anna Girardot. Cyril Aufort signe la musique. Il voulait au départ s'attarder sur la relation du couple, passer du côté sombre au côté amoureux. Il a donc écrit un thème romantique. Mais le réalisateur voulait que la musique suive le désespoir du personnage sans dévier, car leur amour est impossible d'année dès le départ. Le réalisateur savait ainsi exactement ce qu'il voulait. C'est aussi ça la marque d'une bonne BO. Un réalisateur qui sait ce qu'il veut et qui fait recentrer la musique sur un aspect précis. Le morceau « Faux semblant » apparaît lorsque le personnage retrouve le plaisir d'écrire, une lumière renaît. De Cyril Aufort pour Un homme idéal. Le film sort la semaine prochaine et la BO sera disponible le 16 mars chez Crystal Records. Et je remercie les compositeurs qui m'ont transmis leur BO qui ne sont pas encore ou pas du tout disponibles en CD.
Merci beaucoup Benoît Basirico. On vous retrouvera donc le mois prochain dans votre chronique mensuelle, donc au micro de Cinésique dans Cinéma Song sur France Musique. C'est ainsi que s'achève cette émission. Elle avait été préparée comme chaque semaine par Dorothée Goll. À la technique, il y avait Michel Mestre. Cinéma Song a été réalisé comme chaque semaine par l'éternel Bruno Rioux-Maillard. La semaine prochaine, on sera en compagnie du compositeur star, on pourrait dire, du cinéma américain contemporain, Cliff Martinez, que j'avais rencontré il y a quelques mois au Festival de Gand. Et vous pourrez entendre ses propos et sa musique. Je vous laisse en compagnie de Anne Montaron et de son Al Abrévé. Bonsoir Anne.